Bonjour à tous. Et dès le début de ce journal, nous irons à Hong Kong, où la police a tiré à balles réelles sur des manifestants ce matin. Les médias locaux s'en font l'écho, alors que les affrontements continuent sur place, sur fond de barricades et de lutte pour la démocratie. L'Iran a de nouvelles ressources pétrolières, une découverte annoncée hier après-midi, même s'il est peu probable que le pays puisse en tirer de l'argent, vous comprendrez pourquoi. Et puis nous vous présenterons le monument inauguré ce lundi 11 novembre par Emmanuel Macron à Paris. Un monument pour les soldats morts en opération extérieure, une première en France depuis 1963. La police de Hong Kong a donc ouvert le feu contre les manifestants tôt ce matin, blessant au moins l'un d'entre eux, selon les médias locaux et des vidéos diffusées en direct sur le réseau social Facebook. C'est la troisième fois en cinq mois de contestation que la police fait usage de tirs à balles réelles. Le 1er octobre dernier, un étudiant avait été touché à la poitrine. Il a survécu et il est aujourd'hui poursuivi en justice. Quelques jours plus tard, un garçon de 14 ans avait reçu une balle dans la jambe. Lui aussi a ensuite été arrêté. Cette fois, on ne connaît pas l'étendue des blessures du manifestant visé, mais les affrontements sont de plus en plus violents, comme nous le raconte Simon Leplâtre.
Le face-à-face est tendu entre les riverains, quelques manifestants et la police ce matin à Sai Wan Ho, à l'est de l'île de Hong Kong. Une heure et demie plus tôt, un policier qui tentait d'empêcher le blocage de la circulation a tiré trois balles sur deux jeunes manifestants. Un a été touché à la jambe et l'autre dans le ventre, au foie et à un rein. Sur une des vidéos de la scène, on voit un jeune homme vêtu de noir qui tentait d'empêcher l'arrestation d'un camarade s'effondrer sur place. Il n'était pas armé. Le week-end a à nouveau été tendu après la mort d'un jeune homme vendredi, blessé en marge d'un affrontement avec la police quelques jours plus tôt. Pour beaucoup de Hongkongais, la police abuse de la force. Madame Leung, la quarantaine, est sortie pour soutenir les manifestants.
Je suis très en colère, ils n'avaient pas besoin d'utiliser des balles réelles pour tirer sur des jeunes, sur un manifestant non armé. On a l'impression qu'ils ont maintenant des ordres pour utiliser des balles réelles. Maintenant, ils menacent les gens avec leurs pistolets un peu partout. Pour nous, c'est comme un massacre du 4 juin au ralenti.
Le massacre du 4 juin, c'était sur la place Tiananmen, à Pékin, en 1989. La référence est forte, mais elle illustre bien le sentiment de beaucoup de Hongkongais qui s'inquiètent de voir leur territoire autonome devenir chaque jour un peu plus une simple ville chinoise.
C'était Simon Leplâtre, envoyé spécial de RFI à Hong Kong pour France Culture. Un mandat d'arrêt a-t-il été émis contre le désormais ancien président bolivien Evo Morales? Quelques heures après sa démission, il le dénonce en tout cas et il évoque un coup d'État. Le dirigeant socialiste était à la tête de la Bolivie depuis 2006. Accusé de fraude par l'opposition depuis sa réélection il y a trois semaines, il faisait face depuis à une contestation populaire sans précédent. Evo Morales a déjà obtenu le soutien de Cuba, de l'Argentine et du Venezuela. Le Mexique, ce matin, lui offre l'asile. En Espagne, c'est un nouveau casse-tête politique qui débute. Aucune coalition ne se dégage pour former un gouvernement après les élections législatives anticipées organisées hier. Les socialistes, emmenés par le Premier ministre sortant Pedro Sanchez, arrivent en tête devant les conservateurs. Aucune majorité toutefois ne se dessine. Et le scrutin a aussi et surtout été marqué par la poussée de Vox, parti d'extrême droite, quasi inconnu il y a encore un an. Il totalise 15% des voix en troisième position. Un gisement de pétrole a été découvert en Iran, un petit cadeau fait au peuple d'Iran. Voilà les mots du président Hassan Rouhani hier. Les réserves de ce nouveau gisement s'étendent sur 2400 km² et seraient estimées à 53 milliards de barils. Pourtant, la valeur de ce cadeau devrait rester modérée. Les sanctions américaines et l'isolement de l'Iran sur la scène internationale devraient rendre difficile la production et l'exportation de ce pétrole. Une manne financière inexploitable donc, d'autant que l'économie iranienne est déjà en grande difficulté. C'est ce que nous explique Fereydoun Kavan, universitaire et spécialiste des relations économiques internationales.
L'économie iranienne se trouve dans une situation, je dirais, catastrophique, parce que l'année dernière déjà, le taux de croissance en Iran, c'était moins 4,5%. Et cette année, en 2019, d'après les dernières prévisions du Fonds monétaire international publié il y a quelques jours, il y aurait de nouveau un taux de croissance négatif, c'est-à-dire que d'après le FMI, le taux de croissance en Iran en 2019 se situerait à moins 9,5%. Il faut ajouter aussi que, en raison de ces sanctions, l'Iran a subi une baisse considérable de sa monnaie, de la valeur de sa monnaie nationale, ce qui a accentué les tensions inflationnistes qui étaient déjà très importantes en Iran. Et le taux d'inflation officiel en Iran tourne aux alentours de 40%.
C'était Ferdoun Kavan, interrogé par Adrien Paluet pour France Culture. Après avoir rendu hommage vendredi dernier en toute discrétion aux agents des services secrets morts en mission, le président Emmanuel Macron inaugure cet après-midi un monument dédié aux soldats morts en opération extérieure. Il se trouvera à Paris, dans le parc André Citroën du 15e arrondissement. Un hommage longtemps attendu, Nathalie Hernandez.
Depuis la guerre d'Algérie, aucun mémorial ne leur était dédié. Cette quatrième génération du feu, comme l'appelle l'armée, a pourtant représenté des centaines de milliers de soldats. C'est en 2011 qu'un projet a finalement été retenu et une première pierre posée en 2017. Le monument est composé de deux éléments, une sculpture réalisée par Stéphane Vigny. L'artiste a eu très vite l'idée de dessiner six soldats de taille humaine portant un cercueil invisible.
Cette sculpture représente cinq hommes et une femme. Ils dessinent avec leurs mains la forme du cercueil, mais il n'est pas présent en fait, donc c'est un vide. Symboliquement, pour moi, c'était représenter l'absence, le manque, et c'était la meilleure manière de le traduire.
Afin d'honorer les disparus, mais aussi de permettre aux familles de se recueillir, un mur entourera la sculpture. Il portera les noms de ces 549 morts pour la France, dont celui du mari de Céline, mort en 2003 en Côte d'Ivoire. Un symbole essentiel pour cette veuve et sa fille.
C'est bien, c'est une reconnaissance quand même. De voir les noms donc de ces hommes qui ont payé de leur vie pour que les Français soient en sécurité. Moi, je sais que ma fille, ça lui fait plaisir qu'il y ait ce monument-là.
Un regret toutefois pour Céline et sa fille, qui vivent dans le sud-ouest, avoir été prévenue trop tard pour venir à Paris pour l'inauguration.
Avant cela, ce matin, notons que le chef de l'État présidera d'abord la cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l'armistice de 1918. Ce sera à l'Arc de Triomphe, comme de tradition. Emmanuel Macron ravivera la flamme sur la tombe du soldat inconnu. La marche controversée contre l'islamophobie a rassemblé hier 13 500 personnes à Paris. Des comptes du cabinet indépendant Occurrence pour Radio France étaient notamment présents lors de cette marche. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, Esther Benbassa, sénatrice d'Europe Écologie Les Verts, ou encore Philippe Martinez de la CGT. Comment être certain que les produits made in France sont bel et bien fabriqués en France? Voilà l'une des problématiques abordées ce week-end lors du salon du Made in France à Paris. Il se termine ce soir. Les exposants viennent se faire connaître du public en affichant leurs produits fabriqués dans le pays. Cela a de plus en plus de succès. Pour preuve, le Made in France représente 38 000 emplois et génère plus de 7 milliards d'euros par an. Pourtant, le marquage sur les produits n'est pas obligatoire, ce qui peut donner quelques surprises. En rencontre avec des professionnels lors du salon, au micro de Nouran Mahmoudi.
De l'avis de tous, dans les allées du salon, le Made in France plaît beaucoup aux consommateurs ces temps-ci. Mais dans le secteur des cosmétiques, le marquage est quasi inexistant. On ne sait jamais vraiment d'où viennent les produits qu'on achète. Clémence vient de lancer sa marque de crème pour le visage.
On a la liste des ingrédients qui est marquée sur le packaging, mais on ne sait jamais d'où ça provient, par qui c'est fait, etc. Et on a de grosses, grosses surprises.
Le marquage clarifie la provenance des produits, voire des ingrédients qui les composent. Sans lui, on peut vite se faire avoir, et c'est ce qui est arrivé à Clémence.
Par exemple, la cire d'abeille que je voyais sur les documents Origine France, et en fouillant, en creusant, je me suis aperçue qu'en fait, elle était récoltée en Chine, transformée en France, donc qu'elle devenait Origine France. Et c'est beaucoup de choses comme ça dans le milieu des cosmétiques, donc c'est un petit peu mensonger par rapport aux consommateurs, et c'est vrai que c'est assez occulte.
Ce manque de transparence commence à rebuter certains consommateurs, dont l'exigence augmente de plus en plus. Dans d'autres secteurs tout aussi sensibles, comme l'habillement pour bébé, le marquage est nécessaire, ne serait-ce que pour rassurer les consommateurs, selon Magali.
Ça rassure les parents, effectivement, qu'il y ait une provenance. Je pense que c'est un élément qui va rassurer et conforter dans l'acte d'achat. Ouais. Sur certains produits, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est important de le mettre, quoi. On travaille dans une démarche éco-responsable. Notre collection la fabrique nous-mêmes à Strasbourg. On va le mentionner que c'est fabriqué, effectivement, en France.
Les exposants réunis jusqu'à ce soir voudraient donc que le marquage devienne obligatoire, non seulement pour rassurer les consommateurs, mais pour donner une véritable valeur ajoutée à leurs produits.
Le temps à présent de ce lundi qui commence, Made in Météo France. Il sera encore marqué par beaucoup de grisailles et de la pluie également ce lundi, des Pyrénées jusqu'aux frontières belges, avec surtout des températures en dessous des normales de saison. 3 degrés ce matin à Strasbourg, 7 à Lille, 8 degrés en Île-de-France, 14 degrés pas plus ce matin à Marseille.